Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour, bienvenue dans Accent d'Europe. L'année 2024 sera la plus chaude jamais enregistrée. Pour la première fois, le réchauffement de la planète va dépasser la barre de 1,5% d'augmentation par rapport à la période pré-industrielle. 1,5%, c'est la limite la plus ambitieuse fixée par l'accord de Paris. Selon l'ONU, le monde n'est pas du tout en bonne voie pour y parvenir, même si les ambitions sont là. Au Royaume-Uni, le gouvernement veut décarboner l'électricité d'ici à 2030. Et en Écosse, par exemple, le défi est aussi économique. L'an dernier, les productions de pétrole en mer du Nord ont été les plus faibles depuis les années 70. Mais l'accélération des projets renouvelables se fait attendre et la région craint pour ses emplois et son économie. C'est un reportage de Tom Harms.
Sur la plage de Black Dog, au nord d'Aberdeen, la neige se mêle au sable. Mais ce que l'on voit tout de suite, ce sont les 11 éoliennes en mer qui semblent très proches, même si elles se situent à 2 km de la côte. Dans cette région du nord-est de l'Écosse, l'économie repose sur l'énergie. Et durant la dernière décennie, en même temps que ces éoliennes ont été construites en mer, l'industrie des hydrocarbures n'a cessé de décliner. Selon les chiffres de l'organisation patronale Offshore Energy UK, en 10 ans, 40% des personnes travaillant dans le gaz et le pétrole en Écosse ont perdu leur travail. Ce chiffre comprend aussi les sous-traitants, les commerces, les hôtels ou les restaurants qui profitaient de l'argent du pétrole. Sur les dunes enneigées, Rob termine sa course matinale.
Ces éoliennes ne me dérangent pas, mais elles ne fourniront pas le même nombre d'emplois. Loin de là, parce qu'une fois qu'elles sont montées, elles nécessitent très peu de travail.
Et c'est bien toute la question. Est-ce que le secteur du renouvelable et de l'éolien en particulier peut sauver l'équilibre économique en Écosse? Ces 10 dernières années, 40 à 50 000 emplois liés aux exploitations en mer du Nord ont disparu et seulement 2500 ont été créés dans le secteur des énergies renouvelables.
C'est exactement ce qui nous inquiète quand on parle de transition juste. Si vous travaillez dans l'industrie des hydrocarbures, on vous dit constamment qu'il y aura bientôt plein de travail dans le renouvelable et que vous pourrez y passer facilement. Mais cette transition automatique n'est pas une option pour tout le monde.
Le professeur Dave Riay est vice-président de la commission indépendante Just Transition, un groupe d'experts qui conseille le gouvernement écossais sur son objectif d'avoir une économie décarbonée en 2045 tout en réduisant les impacts sociaux économiques. Dave Riay est professeur de gestion du carbone à l'Université d'Édimbourg.
Quand on parle aux habitants, ils se souviennent que quand la région a basculé dans le pétrole et le gaz, ça s'est fait de façon inéquitable. Énormément d'argent sortait de la mer du Nord, mais beaucoup de gens à Aberdeen et dans la région n'en ont jamais vu la couleur. Donc il y a déjà beaucoup d'inégalités de richesse aujourd'hui sur place. Et maintenant, ils se demandent avec inquiétude si cette grande révolution verte n'arrivera pas trop tard pour eux, et surtout si ces revenus seront mieux partagés que la fois précédente.
Une rancœur, alors que la Grande-Bretagne a encore en mémoire les fermetures forcées des mines dans les années 80 et le traumatisme subi dans les bassins miniers. Alors comment éviter que cela ne se reproduise en Écosse? Michael Agbo-Davison est membre de Unite, le premier syndicat auprès des travailleurs du secteur énergétique.
Dans les villes du charbon et de l'acier en Grande-Bretagne, on a vu que les industries polluantes ont fermé et qu'aucun emploi à la hauteur n'y a été créé. On a vu aussi dans tout le Royaume-Uni les ravages sociaux occasionnés quand une communauté perd les emplois dont elle dépend ou qui la définissent. On a un gouvernement travailliste qui promet du changement. Un des changements que nous réclamons, c'est une transition bien organisée, faite avec les travailleurs, qui maintient leur niveau de vie et ne leur laisse pas que des miettes.
De leur côté, les travaillistes écossais voudraient que les emplois dans l'énergie soient recyclés dans le renouvelable grâce à un passeport d'équivalence. Mais surtout, que les municipalités où sont installés les câbles souterrains et les postes électriques qui récupèrent l'énergie éolienne aient une part du profit. Cela peut passer par la baisse des factures électriques dans ces collectivités, mais pas uniquement. Le professeur Dave Huey.
Par le passé, certaines entreprises d'éoliennes terrestres ont fait des dons financiers aux collectivités locales. Mais si les collectivités avaient plutôt une participation dans ces chantiers, elles généraient plus de revenus. Donc nous demandons au gouvernement que cette pratique devienne obligatoire. Quand vous arrivez avec votre projet éolien, vous investissez beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais il y a aussi des conditions à remplir en termes de soutien aux communautés sur lesquelles vous avez un impact. Il faut en particulier leur laisser le choix de devenir partenaire de votre projet.
Mais les défis de la transition sont autant économiques et sociétaux que politiques, car avec la baisse d'emplois dans l'énergie, le risque de voir les partis populistes surfer sur le mécontentement est grand. Michael Agbo-Davison.
C'est un gros risque politique. Il y a un mouvement anti-zéro émission qui grandit à l'extrême droite. Si le gouvernement ne prend pas les bonnes mesures, et si la transition vers un futur plus vert conduit à beaucoup de pertes d'emplois, ce sera une grande victoire pour les climato-sceptiques qui pourront dire « on vous l'avait bien dit ». On ne veut pas voir ça arriver, mais le gouvernement ne semble pas avoir de plan.
Alors, dans la région d'Aberdeen, on attend un plan concret du gouvernement travailliste et on espère que les éoliennes vont pouvoir être construites sur place et pas uniquement installées en mer. Un projet qui apporterait 24 000 emplois dans le secteur, ajouté aux 6 000 pour décommissionner les plateformes de gaz et de pétrole, cela permettrait de limiter les destructions d'emplois dans la région.
Pour évoquer cette transition énergétique de l'Écosse, Kate Forbes est notre invitée, vice-première ministre écossaise. Kate Forbes est aussi ministre de l'économie. Elle était à Paris pour les festivités de la St. Andrews, la fête nationale écossaise. Madame la ministre, bonjour. L'énergie éolienne va-t-elle permettre de créer suffisamment d'emplois dans les années à venir pour compenser la sortie des fossiles?
Les possibilités de l'éolien en mer sont immenses. Pour remettre les choses en contexte, il faut savoir qu'en Écosse, qui est un petit pays, nous avons davantage de projets d'éoliennes en mer que les États-Unis n'en ont dans le cadre de leur loi de transition, l'Inflation Reduction Act. Alors oui, c'est une transition et elle prendra du temps. Il ne s'agit pas simplement de fermer un robinet pour en ouvrir un autre. Mais je pense que l'opportunité de créer des emplois est énorme. Dans la région des Highlands, où je suis élue, il y a le port d'Ardassir. Il est resté vide pendant 20 ans. Aujourd'hui, grâce à des centaines de millions de livres d'investissement, on crée des emplois pour la construction des éoliennes.
On l'entend dans le reportage, lors du boom pétrolier, la redistribution n'a pas été au rendez-vous. Comment pensez-vous faire en sorte que cette fois-ci la transition soit socialement équitable ?
Je suis élue, j'ai une circonscription, je suis responsable devant ma communauté et je crois fermement que cela doit passer par une baisse du prix de l'énergie. Dans les années 80 et 70 en particulier, il y a eu de la désindustrialisation, des pertes d'emplois massives. Le chômage a enfoncé la population dans la pauvreté. Il ne doit pas se produire la même chose avec la transition verte. Nous avons eu le premier parc éolien flottant. Nous sommes pionniers dans cette technologie avec l'avantage qui en découle sur le marché. Et grâce au pétrole et au gaz, nous avons les infrastructures et les ressources nécessaires pour un redéploiement dans les énergies renouvelables. Le nombre d'offres d'emplois verts augmente chaque année. Il y a encore du chemin à faire, mais c'est en cours.
Un mot de la situation géopolitique. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche est une menace pour cette transition verte. Comment s'y préparer ?
Eh bien, en fait, c'est aussi une grande opportunité pour le Royaume-Uni. Si les investisseurs sont inquiets de ce qui peut se passer aux États-Unis, qu'ils viennent en Écosse.
Craignez-vous que la présidence Trump éloigne encore le Royaume-Uni de l'Union européenne, pousse le pays à choisir son camp, si je puis dire?
Ce que nous savons de Donald Trump, c'est que sa présidence est très imprévisible. Donc le moment est venu pour nous, en Écosse et au Royaume-Uni, d'établir des liens encore plus forts avec l'Europe. Nos relations avec l'Europe sont fondées sur la liberté de circulation et sur l'ouverture des marchés. Une grande partie de notre économie dépend des exportations, fruits de mer écossais, saumon écossais, de whisky. Nous pensons que le gouvernement britannique doit aller beaucoup plus loin encore qu'il ne l'a fait et que l'alignement sur l'Union européenne soit aussi poussé que possible. Est-ce que cela se produira ? Ce n'est pas à moi de le dire.
Kate Forbes, vice-première ministre de l'Écosse dans Accent d'Europe. Merci, Madame la ministre. En Allemagne, le nombre de chômeurs a augmenté moins que prévu en novembre, mais il a augmenté. Pour 2024, le taux de chômage devrait être de 6% contre 5,7% l'an dernier. Et là aussi, la question de la transition énergétique se pose avec urgence. L'industrie automobile, notamment, souffre de retard dans la transition vers l'électrique et d'une concurrence chinoise de plus en plus forte. Un mot revient sans cesse depuis quelques mois dans les médias, Stellenabbau, en français « suppression d'emplois ». Le phénomène touche l'industrie, mais aussi de nombreux secteurs de l'économie. Des milliers d'emplois sont en jeu en pleine campagne électorale. Stellenabbau, c'est le mot de la semaine décrypté à Berlin par Salomé Nonkoa.
Massiven Stellenabbau.
Tausende Stellen streichen. 3900 Stellen abzubauen.
Ce mot revient sans cesse dans les médias ces derniers temps et semble enterrer définitivement l'idée d'un modèle économique allemand inébranlable. Stellenabbau. Ces suppressions d'emplois dans de grands groupes, supposés soutenir l'économie allemande envers et contre tout, étonnent, d'autant qu'elles touchent des géants de l'industrie, comme Volkswagen, pionnier de l'automobile depuis près d'un siècle. Une situation inédite donc, due à des annonces de licenciements secs et de fermetures d'usines par la direction, et depuis, d'autres entreprises ont également annoncé des suppressions de postes, comme l'équipementier Bosch, le géant de l'acier ThyssenKrupp, ou encore la marque automobile Ford. En jeu, plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans un domaine, l'industrie, qui revêt une importance capitale dans le PIB allemand, puisque cela représente un cinquième des richesses produites du pays, pour un total en 2023 de 770 milliards d'euros. Oui, mais si l'on parle bien de suppression d'emplois massive, pas question de parler de désindustrialisation de l'Allemagne. On le voit bien dans le choix du mot Stellenabbau, un mot valise classique, comme les Allemands les aiment tant, et qui joint le mot Abbau, du verbe abbauen, démonter, et le mot stelle, emploi. Une expression qui exprime donc plutôt des fluctuations économiques presque naturelles et qui permet de poser des limites à ce scénario catastrophe, comme l'explique Joachim Ragnitz de l'Institut économique de Dresde.
Dans certains domaines, oui, la situation est dramatique, notamment dans les secteurs industriels à forte consommation d'énergie. Mais dans l'ensemble, je dirais que, même si l'on voit de nombreuses suppressions d'emplois, c'est relativement peu par rapport au nombre total de travailleurs dans l'industrie allemande. Pour certaines régions, cela peut être difficile. Pour certaines branches, aussi. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'on est très loin d'une véritable désindustrialisation massive, comme celle que nous avons connue en Allemagne centrale ou en Allemagne de l'Est, il y a 30 ans.
Mais ce mot serait-il utilisé à outrance par les médias et les politiques ? Probablement, d'autant que ce sujet des suppressions d'emplois prend de plus en plus ampleur dans la vie politique allemande, et a fortiori dans la campagne électorale actuelle, alors que les législatives anticipées ont lieu dans moins de 3 mois. Friedrich Merz, candidat CDU à la chancellerie et en tête des sondages, tient son adversaire Olaf Scholz pour responsable de cette crise.
Nous perdons des emplois industriels en masse. Le chancelier n'a pas dû en entendre parler. Monsieur Scholz, le fait que vous n'ayez pas évoqué dans votre discours de ce matin la situation chez Volkswagen, pas un seul mot sur les entreprises qui licencient actuellement des employés à 4 ou 5 chiffres, cela montre bien dans quel monde vous vivez.
L'extrême droite aussi s'empare de ce sujet clivant.
L'équipementier ZF supprime jusqu'à 14 000 emplois. Chez SAP, 10 000 emplois disparaissent. Ford, 4 600. Bosch, 3 760. Les noms les plus prestigieux suppriment des emplois en Allemagne et les délocalisent à l'étranger car ils ne sont plus compétitifs ici. La division acier de ThyssenKrupp se révèle invendable pour cause de non-rentabilité et est sur le point de disparaître. 27 000 emplois sont en danger.
Une bataille sémantique, donc, et aussi une bataille des chiffres, car ce sont bien les chiffres des suppressions d'emplois qui font couler de l'encre et alimentent la psychose autour de la fin supposée du modèle allemand. Par exemple, le fait qu'Alice Weidel évoque ThyssenKrupp est totalement justifié. Par contre, le géant de l'acier a annoncé la suppression de 11 000 emplois et pas 27 000, comme elle semble l'affirmer. Il est donc clair que les annonces en cascade de ces dernières semaines sont en lien avec la campagne électorale. Le sujet des suppressions d'emplois est hautement politique, et les entreprises l'utilisent clairement comme moyen de pression sur les candidats pour voir leur position sur le sujet.
La cybercriminalité est en hausse en Suède, le nombre d'attaques est en augmentation et leur gravité également. Le phénomène a notamment pris de l'ampleur après l'adhésion du pays à l'OTAN. Beaucoup de ces actes sont attribués à des hackers russes, mais les attaques de type rançongiciel font aussi des ravages. En 2020, elles ont coûté 2,7 milliards d'euros au pays. Alors pour que les citoyens sachent se protéger, la Suède les forme très tôt. En classe de 6e, un concours éducatif intitulé « Crack le code » mobilise des élèves de 11 ans. Reportage à Stockholm, Ottilia Ferret.
Certains mordillent nerveusement leur stylo, d'autres se grattent la tête devant leurs ordinateurs et tous font des grimaces de concentration. La grande finale du concours « Crack le code » est lancée. 26 classes à travers la Suède sont encore en lice. Les élèves de 6e ont une heure pour résoudre le plus d'énigmes possible. Assis au fond de la classe, on trouve un élève qui cherche la source d'une photo sur une carte, tandis qu'un autre tente de décrypter un code. Ils ont tous le droit de se servir de l'intelligence artificielle. Mais Calais trouve qu'il est trop nul, que l'outil ne comprend rien à rien. À travers ces différents exercices, le but pour les élèves est d'apprendre à décrypter, analyser, questionner. Il reste 20 minutes avant la fin quand tout à coup, le visage encapuchonné d'une hackeuse apparaît sur leurs écrans. Alors bien entendu, il s'agit ici d'une simulation. J'ai hacké tout le système de l'école, dit la machine.
Ça y est, l'école est attaquée. Elle a envoyé des vidéos en expliquant que si on n'arrivait pas à finir notre mission, on aurait du hareng fermenté à la cantine.
Je suis assez stressée maintenant, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je ne sais pas si on va y arriver.
Alors cette fois-ci, les élèves doivent simplement terminer au plus vite tous les exercices pour contrecarrer l'attaque. Mais lors de leur dernière session, ils ont dû déchiffrer des cryptogrammes. C'était leur professeur Lena qui supervisait.
À chaque fin de session, la classe était attaquée et il fallait résoudre un casse-tête, ça maintenait le suspense. La dernière fois que la classe a été attaquée, les élèves devaient craquer un code, sinon ils n'avaient pas droit aux vacances d'été. Ils ont dû décoder un message chiffré à l'aide d'une clé de chiffrement.
Il faut préciser que la Suède est hautement digitalisée, ce qui en fait une cible de choix pour les cybercriminels. Les cyberattaques ont particulièrement augmenté après la candidature du pays à l'OTAN. La plupart sont attribuées à des groupes de hackers pro-Kremlin. Dans leur ligne de mire, des agences gouvernementales, des infrastructures publiques comme des hôpitaux ou des écoles. Quand le professeur Gustave demande à la classe, par exemple, qui a déjà été piraté ou victime de cyberimposture pour de vrai, de nombreuses mains se lèvent.
Dernièrement, j'ai été contacté par une personne qui disait avoir 10 ans et qui voulait sortir avec moi. Mais j'ai vu que c'était un numéro bizarre, donc je l'ai bloqué et j'ai supprimé le message.
Moi, j'ai reçu un SMS du genre « Tu auras moins 50% en cliquant ici ». J'ai cliqué sur le lien et je suis arrivée sur un site très bizarre. J'ai perdu tous mes SMS, c'était pas une bonne idée.
Mais grâce à ce concours, ils ont retenu quelques leçons de cybersécurité concernant les infos qu'ils reçoivent.
Il faut varier et renforcer ses mots de passe. Ne pas mettre son nom, par exemple.
C'est quoi ton mot de passe ?
Ça, je te le dirai pas.
L'un d'entre eux, Anders, a seulement 11 ans, a réussi à retrouver son hacker.
J'ai réussi à appeler celui qui avait piraté mon compte en mode « Salut ». J'avais créé un faux compte et quand ils ont essayé d'y accéder, j'ai eu leur adresse IP. J'ai retrouvé leur immeuble et j'ai appelé. Ils étaient en Chine.
La technique de piratage la plus utilisée s'appelle le ransomware. Elle consiste à demander une rançon en échange des données sensibles extorquées. Rien qu'en 2020, ce type d'attaque a coûté 2,7 milliards d'euros à la Suède. C'est pourquoi il est primordial que les plus jeunes citoyens se familiarisent avec ces procédés malveillants. Le professeur Gustave se sert aussi de crack le code comme outil pédagogique pour lutter contre la désinformation et les théories du complot qui pullulent en ligne.
J'ai eu des élèves qui commençaient à aimer Donald Trump après avoir vu une vidéo où Taylor Swift disait qu'elle le soutenait. Donc on a regardé ensemble comment l'IA pouvait fabriquer de fausses images. Ils doivent avoir un esprit critique, se demander d'où vient la vidéo, qui l'a faite et dans quel but. Si on ne sait pas ce qui est vrai, on ne peut pas prendre position. On a aussi suivi quand des pirates ont hacké une chaîne de supermarchés, quand des hackers russes ont piraté des systèmes suédois, surtout pour effrayer la population au moment de notre entrée dans l'OTAN. L'école doit refléter la société, donc on doit préparer nos élèves pour qu'à l'avenir, ils sachent ce qui est sûr sur Internet.
Le concours se termine et les résultats sont donnés dans la foulée. Le grand vainqueur est... C'est l'école de Stickling.
Avec le travail d'équipe, le rêve se réalise.
Qu'est-ce que vous gagnez ?
1000 euros pour un voyage scolaire.
Pour certains, c'est désormais décidé. Plus tard, ils deviendront des hackers éthiques ou des gentils hackers.
Accent d'Europe était réalisé par Théo Raison. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur l'appli RFI Pure Radio. À demain.